Bonjour à tous, bienvenue autour de cette grande table. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le métier de prof, fragilisé ou renforcé par la future réforme Blanquer, dans Les bons profs aux éditions Plein Jour, Aymeric Patricot revient sur ce qui fait, pour lui, aujourd'hui, le sel du métier. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, Villa Noy, le festival international de la mode et de la photographie de hier, débute demain. Son travail y sera exposé jusqu'à la fin mai. Directrice de création de la maison Chloé, depuis 2 ans, elle vient de présenter sa collection automne-hiver fin février dernier à la Maison de la Radio. Natacha Ramsey-Lévy est donc de retour ici et elle est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Natacha Ramsey-Lévy.
Bonjour Olivia.
Heureuse d'être de retour dans cette grande maison ronde dans laquelle vous avez fait défiler aussi vos mannequins à l'occasion de ce défilé donc de la collection automne-hiver. C'était fin février cette année. Aujourd'hui, c'est un autre cap que vous devez regarder, celui de hier. Un concours, 10 jeunes stylistes de 9 nationalités différentes, une seule française. Et vous, en présidente du jury, le festival de hier qui met en avant la jeune création à 39 ans à peu près, vous êtes déjà passé, vous, dans la génération au-dessus, dans celle qui a une expérience à partager, un savoir-faire à transmettre.
Oui, absolument. Moi, j'ai déjà plus de 15 ans d'expérience, donc de métier, de maison. Donc, je suis déjà une vieille, absolument. En tout cas, une génération supérieure. Et les candidats qu'on va rencontrer là ont entre 20 et 27 à peu près, suivant leur parcours.
Ils viennent de tous les pays,
oui.
Une expérience à transmettre, c'est aussi ce que vous avez reçu quand vous aviez leur âge, quand vous étiez dans la vingtaine, dans cette décennie-là. Qui vous a transmis, vous, ce savoir-faire, cette expérience ?
D'abord l'école que j'ai faite, qui était Studio Berceau à Paris, menée par une femme assez incroyable qui s'appelle Marie Ruki, qui est quelqu'un qui compte dans le milieu de la mode. Et ensuite, moi j'ai travaillé très vite pour Balenciaga, pour Nicolas Ghesquière, avec qui j'ai appris vraiment toutes les lettres d'or de ce métier, oui.
Alors, il y a des mots-clés, des présupposés, des préjugés que vous avez bannis durant ces années de formation, des choses que vous aviez compris et que vous n'aviez pas perçues avant.
Oui, ce qui est génial, enfin, ce que je trouve assez merveilleux, et c'est pour ça que là aussi, hier est très intéressant, c'est que les années d'école sont des vraies années de liberté. On est, alors je crois que ça a un petit peu changé maintenant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des cours de marketing et de business, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, à mon époque, c'était une grande liberté où tout à coup, c'était assez caricatural, après, se laisser inspirer d'une feuille ramassée dans la rue, d'une plume d'oiseau. En tout cas, c'était très abstrait et exigeant dans cette abstraction. Quand on se met à travailler, on se rend compte que les rythmes sont rapides, donc il faut aussi arriver à un endroit d'inspiration qui va vite, qui est efficace. Donc on a des points d'appui que je connaissais pas, donc ça c'était très agréable, mais on a aussi une réalité business que moi je connaissais pas. Je crois qu'aujourd'hui les écoles sont quand même assez complètes et intègrent cette réalité business, mais ce que je trouve merveilleux des étudiants, des ex-étudiants devenus là candidats pour le concours de la Villa Noy, c'est qu'ils sont encore dans cette abstraction et dans ce désir de création avant de se poser un désir de clientèle, marketing.
La mode, c'est justement une discipline qu'on a encore du mal à classer aujourd'hui. Est-ce que c'est un art ? Est-ce que c'est un artisanat ? Est-ce que c'est un business, un commerce, comme vous le dites ?
Un art appliqué, peut-être. C'est un peu tout ça à la fois. Il y a de l'artisanat, mais pas seulement. Il y a aussi un discours. Il y a aussi du marketing et du business, bien sûr, parce que ça reste, c'est une entreprise, et de plus en plus. Mais je dirais que c'est pas un art parce qu'il n'y a pas cette forme d'abstraction. On est lié de manière très intrinsèque à un marché.
Est-ce qu'on peut déplorer son manque de reconnaissance par les institutions et notamment par le ministère de la Culture? C'est ce qu'évoquait à demi-mot Jean-Pierre Blanc, il y a un an, le directeur de la Villa Noailles et le fondateur de ce festival international de mode et de photographie d'hier, où vous vous rendrez demain pour présider ce jury.
Moi, quand je suis arrivé au festival, quand j'ai créé le festival d'hier dans les années 80, il y avait au ministère de la Culture des gens formidables qui avaient le titre de chargé de mission pour la mode. Aujourd'hui, si vous demandez au ministère de la Culture qui est la personne qui est en charge de la mode, il n'y a pas la même personnalité ou les mêmes enjeux qu'à cette époque-là. Même si, avec les dernières ministres, les choses ont beaucoup changé quand même. Mais c'est un vrai paradoxe qui, moi, m'intéresse particulièrement. Vous disiez que le festival se déroulait à la Villa de Noailles. Je pense souvent à l'esprit de Charles et Marie-Laure de Noailles, sur lequel on sort leur biographie dans quelques semaines. Je ne crois pas du tout, je suis quasi certain, que Charles et Marie-Laure de Noailles ne faisaient absolument aucune différence entre leur ami Christian Dior et leur ami Jean-Michel Franck. Christian Dior, couturier, et Jean-Michel Franck, designer. Et pour eux, à cette époque-là, il s'agissait d'artistes merveilleux qu'ils vénéraient, qu'ils respectaient, qu'ils accompagnaient. Et on a pris cette décision, on a choisi cette direction à la Villa de Noailles et au Festival d'hier de montrer la mode créative et d'encourager les créatifs dans le domaine de la mode.
Une villa qui a aussi vu passer Buñuel, Man Ray, Cocteau, Giacometti ou encore Picasso, bien avant Christian Dior. Alors, il y a peu de recherches encore aujourd'hui autour des modes. Elles sont encore assez absentes des livres d'histoire et des études. Même si on peut aujourd'hui suivre un enseignement en histoire de la mode à l'école du Louvre, c'est ce que nous raconte ce gros volume « Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge au XXIe siècle » dirigé par Denis Brunat et Chloé Demey. Cette histoire de la mode rappelle qu'il y a quand même un enjeu culturel autour du vêtement, autour de la mode, Natacha Ramsey-Lévy, qu'on a tendance un peu à occulter pour vous aussi.
Je crois pas qu'on l'occulte, je crois qu'on ne s'y est jamais vraiment intéressé. En effet, je partage le point de vue de Jean-Pierre sur le fait que la mode, en France en tout cas, étrangement, alors que c'est vraiment le lieu où ça s'est cristallisé, c'est un sujet qui n'a jamais vraiment intéressé parce que certainement considéré d'un point de vue trop mercantile, donc déconsidéré d'un point de vue artistique donc et social. Or évidemment le lien social à la mode il est extrêmement puissant. Je crois qu'on s'habille pour dire quelque chose de soi, pour montrer une appartenance à une idée, une communauté. Voilà, c'est assez, en tout cas, une forme d'expression assez claire.
Et si la mode a une histoire, on peut imaginer qu'elle a aussi des enjeux dans le temps présent, des enjeux contemporains. Est-ce que votre génération de créateurs, de stylistes, vous portez une attention plus particulière par rapport à vos aînés, aux enjeux du moment, des matériaux que vous utilisez, aux conditions, au lieu de fabrication aussi du vêtement?
Oui, c'est vraiment le sujet en ce moment que tout le monde commence un peu à explorer. Donc les jeunes, nous jeunes designers qui rentrent aujourd'hui sur le marché, c'est à peu près leurs conditions. Ils rentrent, ça c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des tissus dont le développement est durable, travailler avec un certain genre d'usine, travailler sur le recyclage. Évidemment, pour des maisons qui existent déjà depuis 50, 60 ans, qui ont des systèmes, la transformation est plus compliquée finalement. On part pas d'une page blanche. Donc, mais ce sont des questions qui commencent à être sérieusement posées à chacune des maisons, à l'intérieur et par la pression de l'extérieur et de l'actualité. Donc oui, cette transformation, elle va avoir lieu, j'espère assez vite. Voilà, mais ça reste une entreprise, donc on connaît à quel point ça peut aller vite ou pas.
Et c'est des combats qui ont commencé quand même il y a une dizaine d'années, notamment avec tout le mouvement contre la fourrure, cette utilisation contre tous les produits, les tissus d'origine animale. On peut penser au cuir, bien sûr, à l'utilisation des plumes par les maisons de couture. Ça, c'est un objectif que vous vous, vous vous êtes aussi fixé, bannir de vos rayons tous ces matériaux-là?
Déjà, chez Chloé, c'est en effet une chose qui était fixée, qu'on a fixée à peu près à mon arrivée, mais qui venait vraiment de l'esprit de la maison, c'est qu'il n'y a pas de fourrure. Il y a ce qu'on appelle de la fourrure alimentaire, c'est-à-dire que on a du mouton ou de l'agneau ou de la chèvre, donc qui sont des bêtes qui doivent être ensuite mangées, etc. Ce qui est important et ce qui moi m'intéresse personnellement, c'est qu'on soit sûr que toute cette chaîne-là, elle soit respectée. Et c'est ça aujourd'hui les enjeux. C'est plutôt de moi je suis pas pour bannir un produit ou un autre, mais pour être sûr des conditions. On fait du luxe, donc on doit pouvoir assurer à notre consommateur que les conditions dans lesquelles on le fait sont respectueuses du bien-être des animaux, de l'environnement, etc. Et c'est là-dessus que nous, on doit travailler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une traçabilité qui est pas assez claire.
Parce que sinon, ce serait incompatible avec les valeurs du luxe.
Non, c'est pas que ce soit incompatible avec les valeurs du luxe, je veux dire, de pas faire de fourrure. Ah non, on peut décider de ne pas faire de fourrure du tout, absolument. Mais, je veux dire, comme on peut décider de ne pas plus manger de viande. Mmh. Mais on peut décider de manger de la viande de qualité, élevé d'une bonne manière et sans en manger trop. Vous voyez, c'est entre le ne pas le faire ou le faire avec raison et c'est des questions de théorie et de positionnement, ouais. Mmh.
Parmi les enjeux contemporains actuels, il y a aussi la question du genre. Et le thème de cette année retenu pour le festival d'hier est celui de l'érotisme, celui de la question des corps, celui de la question aussi des identités, décloisonner le masculin féminin qui a sous très longtemps, ou depuis toujours, été un marqueur dans le milieu de la mode et notamment dans la saison des défilés, entre les défilés pour hommes, les défilés pour femmes, dans toutes les maisons. Est-ce que ça, c'est une tendance vers laquelle vous allez dans un vous collectif?
Le vous collectif, oui. C'est-à-dire que la mode, je pense là-dessus, c'est toute l'ambiguïté de la mode. Il y a des endroits où c'est très précurseur, il y a des endroits où c'est très conservateur. Je pense que sur la question des genres, la mode a quand même là récemment mis des bons coups de pied dans la fourmilière. Donc il y a des femmes extrêmement masculines ou des hommes devenus femmes ou des femmes devenues hommes qui défilent dans l'un et dans l'autre.
Mais ça pourrait être souhaitable pour vous que demain il n'y ait plus une ligne femme, une ligne homme, que demain on ait juste une collection hommes-femmes confondus?
Oui, ça pourrait l'être, mais sauf que les corps sont différents, donc ça doit être considéré. Il y a des corps qui sont androgynes, et on essaye d'y répondre d'une manière ou d'une autre, mais il y a des corps aussi qui sont très différents, donc on peut pas vraiment dire ça, dans le sens où, oui, vous pouvez développer la même chaussure d'en taille 36 à 46, mais c'est plus complexe, quoi, quand même. Dans l'absolu, oui, il y a beaucoup d'hommes qui portent des vêtements Chloé aujourd'hui. Enfin, dans le studio, il y a plein de garçons qui s'habillent en Chloé. Donc ça, c'est génial. Mais c'est l'appropriation. Je pense que plus que la volonté de la maison d'en faire quelque chose, je crois que pour moi, l'important, c'est que la maison soit ouverte à toute tentative. Et ce qui est important, c'est que le client se réapproprie les vêtements. Donc, que ce soit un homme ou une femme.
La maison, justement. Vous êtes aujourd'hui directrice de création dans cette maison Chloé depuis 2017, depuis 2 ans environ. Chaque année, les 10 finalistes du concours mode à hier, ce festival, sont invités à imaginer une silhouette fidèle aux valeurs et à l'esprit Chloé. Voilà le défi qui leur est lancé. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Qu'est-ce que l'esprit Chloé? Est-ce que vous parvenez aujourd'hui à le définir? Et autrement dit, est-ce qu'une marque, une maison, doit être identifiable au-delà des années, de la patte de ses créateurs couturiers successifs? Est-ce qu'une maison a toujours une personnalité bien à elle pour vous?
Oui, une maison a toujours une personnalité bien à elle quand elle a une histoire. Je crois beaucoup au sens des choses, au sens de l'histoire. Oui, ce qu'on fait doit avoir du sens avant tout, parce que sinon on peut faire tout et n'importe quoi. Donc Chloé est une maison qui a justement travaillé sur une histoire extrêmement linéaire et évolutive, mais sans jamais avoir de chapitres qui ont complètement heurté les codes de la maison. Il y a d'autres maisons, oui, bien sûr, qui passent du tout au tout. Et pourquoi pas, c'est très intéressant. Ou qui passent d'une vision à une autre vision, dite différemment. Donc les deux choses existent. En tout cas, pour moi, l'exercice, c'était de m'approprier les codes Chloé et d'en donner ma vision. Mais c'est pas de révolutionner quels sont les codes Chloé, oui.
Alors les codes Chloé, en 3-4 adjectifs, ce serait quoi ?
Pour moi, le plus important, c'est vraiment l'idée du féminin. Féminin qui peut être porté par un homme, mais c'est vraiment celle de la féminité, de l'engagement, de l'action, du mouvement, de la sincérité, d'une forme de naturel. C'est-à-dire que c'est des vêtements qui sont vraiment faits pour accompagner une personnalité, accompagner, voilà, dessiner les traits d'une personnalité, mais pas, c'est des vêtements qui doivent pas être ni criants, ni outrageux, voilà, qui ont une forme aussi de politesse.
Flou, vaporeux, confort, douceur, des adjectifs qui sont souvent associés à la maison Chloé, fondée en 1952 par la française Gaby Aguillon, madame prête à porter de luxe. Ces dernières décennies, la griffe Chloé aura vu succéder à sa tête Karl Lagerfeld. Il est arrivé dans les années 60, avant de rejoindre bien plus tard Chanel, Stella McCartney, qui marquera, elle, les années 90, Phoebe Philo, son assistante, qui la relaiera et lui succédera dans les années 2000, ou d'autres comme Claire Wade Keller, une ancienne de chez Gucci, à qui vous avez succédé, Natacha Ramsey-Lévy. Alors comment s'adapter à cet héritage tout en gardant aussi l'esprit d'avant-garde de sa fondatrice? Parce qu'avant-garde est un mot qui était important pour elle. Comment rester dans l'héritage tout en étant d'avant-garde?
En le re-questionnant en permanence. Pour moi, c'est très important de m'inspirer du passé, de ce que ça a été, et d'essayer de le questionner dans le présent. Donc, évidemment, c'est cet exercice permanent, en fait, de qu'est-ce qui est Chloé et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et de surtout pas figer les choses. D'être toujours en train de les questionner. C'est vrai que vous dites douceur, flou. Oui, flou, mais aussi tailleur, quoi. Tailleur, donc structure, souplesse, questionner et donner son contraire aussi pour pouvoir, je pense que on dit aussi souvent de Chloé que c'est une maison extrêmement solaire, mais je crois que la joie vient aussi d'un endroit grave, donc c'est aussi c'est cette sincérité de pouvoir parler des deux. Donc et Gaby, l'avant-garde de Gaby Aguillon, c'est quand même celle aussi de s'entourer d'artistes assez incroyables, d'avoir un point de vue politique, sociétal, assez fort.
Et celle de Karl Lagerfeld, à qui vous avez rendu hommage lors du dernier défilé automne-hiver 2019-2020, en déposant sur les bancs du public des cartes postales, des citations, des mots de lui. Qu'est-ce qu'il a apporté à cette maison ?
D'abord beaucoup de joie, je pense. Il y a une forme d'humour, de rire, de légèreté qui est géniale. Et il y a aussi une espèce de glamour hyper élégant, hyper assez outrageux. Donc parfois un peu border. Et je crois aussi, surtout, il a beaucoup travaillé avec les femmes. Enfin, il était extrêmement proche de toutes les femmes avec qui il travaillait. Donc que ce soit Stéphane Audran ou ses mannequins. On ne sait plus quelle est la différence entre la femme actrice, la femme dans la vraie vie, cette femme qui est son amie. Et donc, c'est des vêtements qui sont forts, mais qui pour autant sont hyper stylisés et hyper simples. Donc, ils peuvent être mis dans un film de Buñuel, dans un film de Chabrol, comme faire des photos pour Guy Bourdin. Donc c'est une imagerie très forte avec des vêtements simples, parce que personnalité des femmes qui l'ont portée extrêmement un peu excessive et provocante.
Sa définition de la mode, c'était en 2014.
La mode des Fashion Week, c'est des propositions et la mode se décide après. Je veux dire, c'est pas un dictat de certaines personnes. Ça, on n'est plus à cette époque-là. Les jupes à tant de centimètres, tout ça, c'est complètement parce qu'aujourd'hui, il y a plein de modes différents, d'esprits différents, de concepts différents. Alors, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Évidemment, il y a la publicité, il y a les grandes marques, il y a tout ça. C'est complètement changé. On peut plus dire ce qui est la mode et pas la mode. D'ailleurs, pour parler de la mode du moment, il faut avoir un recul, parce que sur le coup, on peut pas voir. L'air du temps, c'est une chose qu'on peut essayer de concrétiser dans des images, dans des produits, dans des vêtements qui sont comme une expression de leur époque. Toute l'histoire de la peinture, ce que les gens ont sur le dos, ça exprime l'époque. Une robe 18e évoque le 18e siècle et tout ce que ça comprend. Je veux dire, la mode, elle est le reflet d'une époque. D'accord. Ce qui reste 100, 200, 300 ans après, on peut se repérer dans une image par les vêtements de ce que les gens portent.
Karl Lagerfeld est décédé en février dernier. Il parle de la mode comme du reflet d'une époque et il fait appel, lui, à la peinture pour imager son propos. Il avait aussi, lui, une manière unique de scénariser ses collections. Montrer une collection, exposer ses créations comme vous le faites, vous allez le faire à partir de demain, après-demain, en investissant la Villa Noailles et sa mythique piscine construite à la fin des années 20 par Robert Mallet-Stevens. La mode emprunte parfois aussi les codes des autres arts et notamment du cinéma.
Oui, absolument. La mode, on mange à tous les râteliers, on picore partout. C'est ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'a beaucoup charmée quand je me suis mise à faire de la mode. Il y a une liberté d'aller chercher partout, et on se donne ce droit de faire référence absolument à ce qu'on veut.
Alors, comment on scénarise une exposition de vêtements? Comment on la remet en mouvement?
C'est un exercice qui n'est pas le mien parce que c'est un métier. Et là, dans ce sujet, voilà, il fallait qu'on le fasse un peu nous-mêmes. Donc,
vous avez fait la scénographie.
Oui, avec le conseil de Mathias et Michael, donc M&M, qui sont deux graphistes avec qui je fais les campagnes. Et on s'est dit que finalement, ce qui représentait le mieux notre travail, c'était les campagnes parce que c'est là où on mettait les vêtements sont portés, ils sont incarnés, il y a un point de vue assez fort, donc il y aura principalement des photos des campagnes et puis les stockmen derrière, parce que je pense que les stockmen portant les vêtements et les bijoux et les chaussures, parce que je pense aussi que voilà, les gens qui viennent à hier ont envie de voir comment est fait un vêtement, quelle est sa construction, quels sont ses attributs.
Mmh. Les coutures, en fait. Les coutures de la couture. Vous avez-vous conscience, vous l'évoquiez, de vous inscrire dans une histoire longue de la mode? Est-ce que pour autant, on peut dire que chaque époque refait sa mode, repart à zéro?
Non, on repart pas à zéro. Je crois pas. Je crois pas, au contraire. Il y a eu beaucoup de choses de faites, il faut les connaître, il faut les savoir. Je crois toujours beaucoup à la connaissance. On fait pas un métier d'une manière idiote, quoi, ou naïve. Après, il y a des gens qui ont un instinct incroyable. Mais généralement, quand on est un grand cinéaste, on connaît l'histoire du cinéma. Donc voilà, quand on est un grand designer de mode, eh ben on connaît son histoire de la mode. Il y a des merveilleux designers et créateurs qui sont passés avant nous, ou des modes à travers les siècles qui ont eu lieu. Donc on y fait référence, on les prend, on se les approprie, on les fait devenir autre chose. Mais ça a existé, il faut le connaître. Donc non, c'est pas tabula rasa, je crois pas.
Un héritage qu'il faut quand même aussi peut-être savoir transgresser, c'est en tout cas ce qu'évoquait en 2003 Monsieur Industrie du Textile, Didier Grumbach.
Je crois que les jeunes créateurs, ça a toujours été essentiel, puisque les marques de mode vieillissent et meurent, et que cette demoiselle ne s'habille pas où sa mère s'habillait. Ça veut dire qu'il y a besoin de nouvelles marques, sinon l'industrie meurt. Et même la haute couture a toujours vécu comme une chaîne de compagnonnage qui a permis à Gautier de suivre Cardin, qui lui-même était l'assistant de Dior, qui lui-même... Donc cette chaîne, elle est essentielle. Et c'est pourquoi, en effet, il y a eu un manque de formation. Les écoles étrangères dont il parlait sont parties d'écoles d'art, donc la mode est une des branches de l'enseignement, et ce ne sont pas des écoles de mode simplement. Et ça permet en effet aux étudiants d'avoir une ouverture beaucoup plus large et d'être beaucoup plus, cultivés. Les créateurs aujourd'hui sont tous très intelligents quand ils réussissent. Ce sont plus des écoles manuelles, c'est tout autre chose. Et vous avez raison, ça ne s'apprend pas vraiment. Mais enfin, on n'est pas non plus dans l'art contemporain, on est dans la fringue, il ne faut pas oublier ça.
C'est aussi tout le rapport entre la grande histoire, l'institution et les marges qui se transmettent et qui doivent pouvoir compter dans la manière de réinventer aussi ces collections. Quelle place laisser aux contre-cultures, aux tendances qui viennent d'ailleurs? On a beaucoup parlé de l'influence de la rue à un moment. On la retrouve un peu moins dans les discours aujourd'hui, mais en tout cas, la manière dont la marge peut aussi pousser sur l'histoire du vêtement, vous la percevez, vous la ressentez, vous lui faites une place?
Bien sûr, c'est essentiel. Ce que Didier dit est assez génial, je trouve. Et ça reflète bien aussi les années 2000. On est aujourd'hui, peut-être le discours serait légèrement différent, mais bien sûr, notre rôle, c'est transgresser avec plus ou moins de douceur ou d'agressivité, évidemment, suivant les sujets et les maisons. Mais c'est évidemment de casser des codes, de proposer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on parle un peu moins de ce qui se passe dans la rue, mais parce que ça, aujourd'hui, c'est acquis, en fait. C'est acquis que la mode est le reflet de ce qui se passe dans la rue. Je crois que tout le monde l'a compris. Donc, évidemment, nous, notre métier, c'est Baudelaire qui en faisait une très belle définition. Il y a ce qui est immuable et ce qui est donc la beauté antique, voilà, l'art à proprement parler, enfin de manière très classique. Et puis il y a ce qui est l'air du temps et qu'on doit aussi bien refléter. Donc notre métier, c'est d'allier les deux. C'est à la fois on fait un métier qui est ancestral et dont on doit connaître les codes, les constructions, l'artisanat, et en même temps on doit absolument parler de ce qui est d'aujourd'hui. Donc vous avez parlé de genre, de développement durable, de voilà, c'est peut-être aujourd'hui des questionnements plus politiques, mais la rue, le sportswear a intégré les collections. C'est même plus, on n'en parle plus parce que ça y est, c'est intégré dans les collections parce que les gens aujourd'hui, se mettent des doudounes et des baskets, quoi.
Mais en intégrant ces contre-cultures, ces utopies aussi, la mode peut affaiblir ces courants-là d'une certaine manière, en se laissant récupérer, en s'appropriant ces courants qui étaient avant à la marge, en les institutionnalisant et en les faisant passer dans le secteur du luxe.
Oui, mais le principe d'une contre-culture, c'est d'être mouvant. Donc je pense qu'une contre-culture figée, ça n'a aucun intérêt.
Il y en a d'autres qui se réinventent.
Voilà. Et que c'est le principe de toute culture. Et en même temps, je pense que pour nous, notre rôle, c'est aussi de leur donner une voix. Donc oui, peut-être que ça bouscule un peu l'état des choses, mais ça permet de donner une voix aussi à cette contre-culture qu'on n'en aurait pas sans ça. Et puis... la mode, il y a aussi je pense que pour une certaine forme de contre-culture, on le voit avec la culture afro-américaine, ça a été de se l'approprier à fond, quoi. Donc, il y a une forme de statut aussi qui est intéressant.
Nicolas Jesquière, qui après Balenciaga a trouvé refuge chez Vuitton et avec lequel vous avez, commencé, Natacha Ramsey-Lévy, dit que vous avez un sens unique du style. Avoir du style, c'est toujours difficile à définir, mais néanmoins vous avez probablement une empreinte, une patte française, et ça faisait longtemps que la maison Chloé n'avait pas été dirigée artistiquement par une Française. Il y a un style français à préserver là-bas.
Je sais pas s'il y a un style français, mais il y a un esprit français. Donc, qui serait un esprit français qu'on peut mettre sur toute personne. Je pense qu'il y a l'idée des contradictions. On n'est jamais complètement quelque chose. On est toujours, c'est quelque chose de très français d'être un peu comme une poupée russe, quoi. Il y a une première enveloppe, puis il y en a une deux, on ouvre, il y a une contradiction, et puis on ouvre, il y a une autre contradiction, et puis c'est le nombre de couches et de niveaux de lecture. Je sais pas, on est un peuple qui croit qu'il vote à gauche, mais en fait il vote à droite. Enfin, c'est cette espèce de double message.
Double message, double culture et contradiction. Merci beaucoup à vous, Natacha Ramsey-Lévy. Vous allez filer, rejoindre la ville de Hyères, où se tiendra donc le Festival international de la mode et de la photographie. Ça commence demain, ça dure tout le week-end. L'exposition, la vôtre, est à voir jusqu'à la fin mai. L'occasion aussi de vous rappeler que France Culture a mis en ligne sur son site l'intégralité de l'entretien que Jean-Luc Godard nous accordait la semaine dernière. Nous vous avions proposé autour de la grande table cet entretien en deux parties. Jean-Luc Godard, l'archéologue Jean-Luc Godard, qui ouvre le livre d'images que vous pouvez également réécouter, et vous indiquer que ce soir sur Arte, en deuxième partie de soirée, sera donc diffusé ce film qui avait été présenté à Cannes l'an passé. Merci à vous.